de pouvoir entendre et méditer ta parole pour contempler Jésus, pour contempler son œuvre, son caractère, et que ton esprit nous rend capables aujourd'hui de bien comprendre et appliquer dans nos vies ce que tu as préparé aujourd'hui. On prie aussi que tu fais arriver, Seigneur, ces paroles des personnes qui n'ont pas pu venir aujourd'hui par différentes raisons, Seigneur. Nous prions que ceux-ci soient encouragés dans la foi. Au nom de Jésus. Amen. Ce que Alex a partagé avec une sorte de blague, c'était vrai dans ma vie. Dans, il avait beaucoup d'années. Et je suis allé dans un acte similaire à Hébreux et là-bas, oui, j'étais là pour écouter la parole. Mais Dieu a pour vous une chouette fille qui est devenue ma femme. Et donc, c'est vrai. Merci Seigneur pour ces femmes qui m'ont encouragé dans la foi et qui avaient soif de Dieu comme moi. Donc, Et après, en 2006. Dans 2006, cette femme que j'ai rencontrée dans cet événement, cette femme et moi, nous avions très envie d'aller, on était mariés, bien sûr, et on avait très envie d'aller au sommet des mondes perdus, aux Pyrénées. Et nous avions préparé les voyages pendant plusieurs semaines et après nous être bien informés, on n'était pas à notre domaine, on a décidé de monter en été pour éviter la neige. On avait lu que l'un des risques de la montagne, le plus dangereux, c'est mal évaluer les forces à long terme. Les premiers jours, nous avons marché plusieurs heures jusqu'à un refuge, tu te souviens? Et nous avons passé la nuit. Le lendemain, après encore plusieurs heures de marche, nous avons atteint le sommet, 3300 mètres, quand même un peu d'effort, mais sans oxygène, ça va. Et nous avons pris quelques photos et alors on est redescendu au refuge. Nous sommes arrivés au refuge après 8 heures de marche, on était assez fatigués, aux alentours, je crois, 5 heures du soir, de l'après-midi. Notre niveau d'adrénaline était top et notre optimisme aussi. Et nous nous sentions à ce moment-là qu'on était capable de tout. Notre erreur fut de croire que nous pouvions continuer à marcher jusqu'à la vallée, pour prendre les bus jusqu'à l'hôtel. Clairement, nous avions mal évalué nos forces. À cause de notre excès d'optimisme, nous avons sous-estimé le temps nécessaire pour la descente de la vallée. Le dernier bus partait à 23 heures, et nous avions déjà fait quelques heures de marche. Et maintenant, on devait descendre avec les sacs lourds. C'est pas pourquoi il y avait encore beaucoup de boîtes de conserve, une autre preuve de notre inexpérience dans le calcul des provisions. Ces heures supplémentaires se sont prolongées tard pendant la nuit et nos forces épuisées petit à petit. Nos conversations et nos blagues sur les chemins se sont transformées en un silence total. Nous avons fini par arriver à 23 heures. Le dernier bus était déjà parti. Nous étions exténués, vraiment exténués, au milieu de la nuit et je crois me rappeler de la pluie aussi. Et nous n'avions presque plus de force à cause de notre inexpérience. Après quelques appels au téléphone, on a pu contacter quelqu'un qui est venu nous secourir. Je me souviens encore de l'épuisement total, de cette sensation, incapable de faire un pas de plus, littéralement. Finalement, une voiture est arrivée pour nous prendre gratuitement. C'était notre faute et nous ne le méritions pas. Le trajet en voiture nous a épargné une autre bonne heure jusqu'à l'hôtel, où nous sommes arrivés environ 1h ou 10h du matin, plus ou moins. Une image inoubliable de la grâce. Un secours inattendu dans notre faiblesse à cause de notre mauvaise décision. Et aujourd'hui, nous allons considérer, méditer quelque chose de similaire, mais beaucoup plus important. Comment la grâce vient à la rencontre de ceux qui sont spirituellement perdus. C'est pourtant le titre, c'est la grâce au secours de ceux qui sont perdus. La grâce au secours de ceux qui sont perdus. Et nous allons méditer premièrement l'appel de Lévi. Jésus venait de guérir un lépreux et un paralytique, comme on a vu la semaine passée. Et Jésus continuait sa mission d'enseigner les gens. Si on lit les parallèles en Marc, on trouve ces morceaux en parallèle en Marc 2 et Matthieu 9. Mais Marc ajoute un détail, dit que Jésus sortit de nouveau au bord de la mer et toute la foule venait à lui. Et il les enseignait. Dans ce contexte, juste qu'après avoir démontré son pouvoir de pardonner les péchés et de guérir, il rencontre Lévi. Et nous lisons le verset 2 que Jésus sortit et il aperçut un péager nommé Lévi. Luc met l'accent sur ce verbe, il l'aperçut, pour souligner qu'il ne sait pas son nom, il l'a vu juste quand il passait. Non. Le verbe, la façon dont il écrit, c'est que Jésus fixa son regard à lui, avec un but et une intention précise. Le regard de Jésus allait au-delà de sa profession méprisée, des collecteurs d'impôts, péagers, comme on a lu aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'en effet, ces collecteurs d'impôts, comme Lévi, étaient profondément méprisés par le peuple juif, pour plusieurs raisons. La collaboration avec Rome. D'abord, il travaillait pour l'autorité romaine, pour les ennemis. Il était vu comme des traîtres aux yeux du peuple. Et l'autre raison, c'était pour habituellement l'extorsion et la corruption. Le système de collecte d'impôts permettait et encourageait souvent l'extorsion. Pourquoi ? Parce que les collecteurs donnaient d'abord un montant fixe à Rome. Et ensuite, ils ont profité pour taxer les gens, bien plus que nécessaire, juste pour s'enrichir. C'était la pratique habituelle de ces collecteurs d'impôts. Pour ces raisons, ils étaient souvent considérés comme des pécheurs et des traîtres. Ils étaient méprisés et exclus de la vie sociale et religieuse. C'est pour ça que l'action de Jésus, ce qu'on lit dans un verset quelconque, était totalement inattendue et surprenante. Ce n'est pas par hasard que l'évangile de Luc insiste dans tout son évangile sur les publicains et les collecteurs d'impôts. Parce que Luc souvent montre un paradoxe. Ces personnes méprisées sont souvent celles qui acceptent plus facilement la grâce offerte par Jésus. Pas seulement ici, mais vous vous rappelez, vous connaissez l'histoire de Zacchée dans Luc 19. Il est encore chef des collecteurs d'impôts. Jésus prononce alors les paroles les plus surprenantes qu'on pouvait attendre. Lévi, collecteur d'impôts, méprisé, exclu, suis-moi. Et Lévi, laissant tout, s'éleva et les suivit. Ses réponses immédiates est la preuve d'une transformation radicale des priorités. C'est l'image parfaite de la repentance. Couper avec la vie avant, s'élever et suivre Jésus. Lévi a échangé une position sociale méprisée, mais financièrement très attirante, contre l'incertitude de suivre Jésus. C'est un signe de l'appel de Jésus qui a provoqué un changement radical. Mais le plus important qu'on voit dans le passage, c'est qu'il ne le fait pas à contre-cœur, ni avec regret, mais avec un plein joie. Peu après, on lit dans le verset 29 que dans la joie de sa nouvelle vie et de son appel, organisa chez lui un grand banquet. Ce n'était pas seulement un repas à deux ou avec Jésus et quelques disciples. Les mots, c'est un open doors, un banquet public. Tout le monde était invité. Il a aussi invité un nombre de collègues et des autres exclus sociaux, toutes des gens de mauvaise réputation. C'était une célébration ouverte, montrant qu'il partageait immédiatement la grâce et la joie qu'il avait reçue. Pourquoi ? Parce que quand la grâce de Dieu touche le corps de quelqu'un, cette personne change. Et en plus, ne peut pas rester silencieuse. Elle donne la joie et elle parle de ce qu'elle a trouvé. C'est exactement le cas de Lévi. Il faut aussi remarquer que rompre avec sa vie d'avant ne veut pas toujours dire littéralement laisser tout derrière soi, dans le sens du terme. Par contre, ça veut dire forcément arrêter de vivre d'après nos anciennes priorités et reconnaître Jésus comme le nouveau maître de notre vie. C'est ce qu'on voit ici avec Lévi. Lévi était dans la joie et il a ouvert dans sa maison pour un banquet. Mais les publicains n'étaient pas les seuls à assister à ce banquet. Les pharisiens n'ont pas pu ignorer ce qui s'est passé. Et ils ont profité pour essayer de discréditer Jésus et les disciples. Ça, c'était l'appel de Jésus. Mais après, on voit deuxièmement les réponses de Jésus face à cette attaque. La première chose qu'on peut noter ici dans le verset 30, c'est que les pharisiens murmuraient et parlaient à ses disciples. Ils ne se sont pas adressés directement à Jésus, mais ils murmuraient indirectement contre lui. Car la murmuration est la rébellion des lâches. Il n'a pas de plantes directes, mais elle cherche, et ses attaques cherchaient à semer le doute, à chercher la honte, pour jeter le discrédit et accuser Jésus et tous ses disciples. Le verset 30 dit « Pourquoi ? Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs ?» Les pharisiens essayaient d'attaquer l'identité de Jésus et de ses disciples. C'est comment dire « Quelle honte ! Quelle honte ! Si vous mangez avec eux, alors vous vous associez avec eux. Et vous devenez comme eux. Vous êtes des hypocrites, vous savez ? Vous dites que vous cherchez Dieu, mais vous ne voulez que manger et boire avec ces gens comme vous. Vous êtes des imposteurs. Votre maître est imposteur et votre mouvement est une arnaque. Les pharisiens aimaient accuser et attaquer toute personne qui menaçait son système. Luc écrit aussi, il recule des mots de Jésus à propos de cette attaque. Dans Luc 7, c'est Jésus qui dit en effet, Jean-Baptiste est venu et il mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous dites, il a un démon. Et le Fils de l'homme est venu et mange, il boit, et vous dites, c'est un glouton et un buveur, ami des collecteurs d'impôts et des pêcheurs. Les pharisiens avaient toujours une excuse pour attaquer toute personne qui n'agissait pas de la façon dont il attendait. Toutes leurs préoccupations étaient à l'extérieur. La religiosité et la spiritualité devaient avoir une forme visible, précise. Et tout ce qui se sortait de cadre était mal. Et cette attaque, c'était une preuve d'un vrai problème de fond. Alors que méprisaient dans leur cœur toutes ces personnes, Jésus voyait des gens assoiffés de pardon de Dieu. Et au lieu de les éviter, la mission de Jésus était de les sauver. C'est pourquoi sa réponse, c'est une réponse très claire. Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu pour appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. Cette phrase est clairement ironique, vous comprenez. Jésus n'est pas en train d'affirmer qu'il a des bien portants et des malades. Non. Il utilise plutôt l'ironie pour mettre en évidence les vrais problèmes. Les uns se considèrent comme bien portants, mais s'ils ne le sont pas. Mais les autres les reconnaissent. Les pharisiens n'avaient rien compris. Jésus était là pour, c'était pas là pour approuver son style de vie, mais pour les arrêter et les amener à la repentance et leur accorder le pardon des péchés, de la même manière qu'il avait fait avec les paralytiques qu'on a vu la semaine passée. C'est précisément pour cela que les publicains étaient plus proches de la grâce que les pharisiens, parce qu'ils reconnaissaient plus facilement dans sa vie l'impossibilité de plaire Dieu par eux-mêmes. Ils se voyaient eux-mêmes indignes de Dieu. Peut-être que les pharisiens n'avaient pas tort dans un aspect. Ces gens étaient clairement des pécheurs. Mais là où les pharisiens voyaient des gens à éviter, Jésus voyait des gens à secourir, à inviter pour les amener à la repentance. Les pharisiens avaient tout à fait mal compris cette mission de Jésus. Car en Jésus, nous voyons que Dieu n'attend pas des gens parfaits, n'attend pas des personnes parfaites, mais plutôt des personnes parfaitement repenties. Voici la différence. Luc écrit dans autre passage, Luc 18, une parabole très pertinente pour cette situation. Voyez ce qu'il dit Jésus, un peu plus tard, mais aussi dans les récits de Luc. Deux hommes montaient au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre un collecteur d'impôts, comme ici Lévi. Les pharisiens, au début, faisaient cette prière en lui-même. « Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont des voleurs, injustes, adultères, ou même comme ces collecteurs d'impôts. Je jeûne deux fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait pas même lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Dieu, aie pitié de moi, je suis un pécheur. » Jésus continue et dit, « Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas les pharisiens. » Voici la vraie différence entre ceux qui croient être en bonne santé et les malades spirituels. Le premier, croire mériter le pardon de Dieu. Croire mériter être proche de Dieu. Mais les derniers, par contre, n'osent même pas s'approcher de lui. Ils reconnaissent l'énorme distance entre sa sainteté et leur péché. Nous ne pouvons pas nous repentir vraiment si nous ne reconnaissons pas ouvertement notre péché. L'orgueil et la haute justification nous éloignent carrément de la présence de Dieu. Ça, c'était le premier attaque sur la identité. Mais si cette première attaque c'est à poursuivre l'identité, le deuxième essaye d'attaquer l'autorité de Jésus. Il dit, les disciples de Jean, ici on le verset 33, Luc l'exprime comme une affirmation, tandis que Marc et Matthieu l'expriment comme une question, mais l'essence est exactement la même. Verset 33, Jésus, les pharisiens disent à Jésus, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et ils font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Les jeûnes et la prière étaient les piliers fondamentaux de la piété et de toute expression spirituelle. Voici l'importance de ces questions. Et quand il remet en question l'absence des jeûnes, ce n'est pas une question mineure. Ils sont en train de dire que Jésus est disqualifié comme autorité spirituelle compétente. D'autres pratiques étaient peut-être secondaires, mais la pratique régulière du jeûne était une mesure de rigueur et d'engagement dans l'adoration de Dieu. Et avez-vous remarqué aussi la subtilité? Même si les pharisiens avaient attaqué à Jean-Baptiste, ici, dans cet argument, il l'inclut, pour dire, même lui, avec ses trucs bizarres, même lui, ça a clair en tête. Alors Jésus, quelle sorte de piété enseigne-t-il sans pratiquer les jeûnes? Mais encore une fois, il s'est trompé. Non pas concernant l'importance du jeûne, mais concernant le discernement du moment. Beaucoup de chrétiens ont utilisé et utilisent les jeûnes dans le moment des prières. Aussi pour Actes, les apôtres, alors qu'on choisissait Bernabé, dans Acte 13, il jeûnait. C'est une pratique qui, non pas pour forcer Dieu à quelque chose, mais comme une expression du cœur pour intensifier nos prières. Mais la réponse de Jésus est magistrale. Il n'invalide pas la pratique du jeûne, mais il en change la référence. Il est lui-même l'époux prophétisé. Par exemple, dans Ésaïe 54, si vous voulez lire à la maison, lui était l'époux. Les jeunes étaient importants, mais à présent, ils représentaient une offense parce que l'époux était présent. C'est un moment de joie. En même temps, Jésus reconnaît que l'époux leur sera enlevé. Et les disciples vont vraiment jeûner. C'est une claire allusion à sa meurtre après et au temps des persécutions auxquelles ils feront face jusqu'au jour où ils les rêveront. Mais la vie chrétienne, la relation avec Dieu, n'a jamais consisté en un système de règles à suivre, mais en la relation personnelle avec lui. Ce qui nous sauve vraiment, ce n'est pas les règles, mais c'est la personne de Jésus. Et pour ça, il était trompé. Luc met tout l'accent sur la repentance dans la personne de Jésus. Et ce n'est pas une coïncidence que dans le dernier chapitre de son évangile, Jésus dit, « Ainsi il est écrit que le Messie souffrira, dans le chapitre 24, et qu'il ressuscitera le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seront prêchés en son nom, pas dans un système de règles à suivre. » Luc met l'accent sur la repentance et le pardon des péchés en Jésus. C'est pour ça que son évangile termine ainsi. Mais il est aussi le seul à enregistrer quelque chose de spécial au début aussi de son évangile, qui est pertinent aujourd'hui pour nous. Dans Luc 4, il fait référence à la prophétie d'Ésaïe 61. Et c'est Jésus qui prit la parole au début de son ministère. Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, comme les collecteurs d'impôts. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le corps brisé, pour proclamer aux prisonniers du péché la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce, une année de grâce du Seigneur. » Voici la mission de Jésus. Il n'est pas fortuit que l'accent soit mis de façon répétée sur les publicains, les méprisés, sur la repentance et sur les pardons que nous trouvons en Jésus. Et tous les résumés, c'est cette année de grâce gratuite pour avoir la justification de nos péchés. Une année, ce n'est pas une année littérale, bien sûr, c'est toute la période dont nous nous trouvons maintenant. Cette année de grâce, instaurée par Jésus, bouleverse tout ce que le peuple avait connu jusqu'à présent. C'était la nouvelle alliance en lui. Ce qui nous amène au troisième point. Après ces attaques et ces réponses, on voit après, avec les paraboles qui suivent, que la grâce dépasse largement l'ancienne alliance. La grâce dépasse largement l'ancienne alliance. Dit Jésus, personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre dans un vil habit. Autrement, il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Il dit que personne n'utilise un vêtement neuf pour raccommoder un vieux. Luc écrit que les morceaux n'assortissent pas avec les nouveaux, mais Matthieu et Marc font un petit détail différent. Il écrit que la nouvelle pièce finit par déchirer aussi les vieux. Petite différence, mais l'essentiel est clair et ne change pas l'essence du passage. Aussi, Jésus explique qu'il veut garder les vins nouveaux dans les autres nouveaux. Pourquoi ? Parce que c'était, comme on dit, outre, c'est un mot français aujourd'hui courant. Hein. Donc, c'est sorte de gourdes à peau. Et pourquoi? Parce qu'au niveau physique, les gaz carboniques dégagés par la fermentation du vin nouveau créent une forte pression tout au long de la fermentation du vin. L'outre neuf, souple, peut s'étirer, il est un peu élastique. Il peut supporter cette pression. L'outre vieille a perdu l'huile de la peau et devient rigide et finit par éclater sur cette pression. La conséquence est que mon père alors leva à nouveau et l'outre est pourri. Les vins en pleine transformation, les vins nouveaux, exigent un récipient capable d'échanger avec lui. Mais pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que Jésus essaye d'expliquer? Que la grâce dépasse largement l'ancienne alliance. L'ancienne alliance était un pacte des offres. Et on lit clairement dans Lévitique, « Vous respecterez donc mes lois et mes règles, et l'homme qui les met en pratique vivra par elles. » Point. Mais l'année de grâce est différente. La justice de Dieu est gratuite, gratuite pour tous ceux qui s'approchent de Jésus avec foi, en pleine conscience de leur péché. L'auteur aux Hébreux aussi cible tous les Juifs, les pharisiens, et il les encourage à abandonner tous ces systèmes de règles. Et dans Hébreux 4, 16 dit « Approchons-nous avec assurance au trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. » Aujourd'hui est le moment opportun pour saisir cette grâce et pour nous repentir. La grâce et ses vins nouveaux. Et Jésus marque un point de retour très clair. Il n'était pas venu pour appliquer un patch, un update dans tous les systèmes religieux juifs. Il était venu pour commencer quelque chose de nouveau. Mais ça ne veut pas dire que Jésus déconnecte avec l'Ancien Testament. Tout au contraire, Jésus accomplit parfaitement les prophéties. Mais son ministère ne pouvait pas se réaliser avec des juifs ancré mentalement dans le pacte des offres. Quel est le sens de son enseignement ici? Est clair. Seuls ceux qui ont expérimenté la véritable grâce, seuls ceux qui ont expérimenté la véritable grâce peuvent la transmettre. Seuls ceux qui ont vécu le fait que Dieu leur a pardonné gratuitement leurs péchés peuvent vraiment pardonner aux autres. La véritable capacité de transmettre la grâce et le pardon découle d'une expérience personnelle et profonde de ces réalités divines dans notre vie. Sans avoir vécu la vraie grâce de Dieu dans notre vie, nous sommes porteurs des chaînes, mais pas de grâce. Seuls ceux qui ont été véritablement touchés et transformés par la grâce de Dieu sont aptes à en être témoins et messagers de cette grâce. Et vivre la grâce n'est pas un concept théorique, théologique, mais le rappel quotidien, individuel, de ce que nous étions et ce que Dieu a fait pour nous en Jésus. Après avoir choisi les disciples, méprisés, exclus, pécheurs, Jésus les envoie dans la prémonition, dans Matthieu 10. Et c'est Lévi, Matthieu lui-même, qui écrit ça. Et regardez-vous ce qu'il dit. Jésus guérissait les malades et ressuscitait les morts, purifiait les lépreux, chassait les démons. Vous qui étiez méprisés, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il savait ce que signifie tous les élus. Il savait ce que signifie être indigne et pardonner son condition. Il avait vécu. Il avait vécu à tel point que Matthieu, quand il écrit de lui-même, quand il fait la liste de tous les 12 apôtres pour être envoyés, il écrit lui-même dans ce chapitre, verset 3, pas pour lire tout, mais il y avait parmi eux Philippe, Barthélemy, Thomas et Matthieu, les collecteurs d'impôts. Matthieu écrit de lui-même. Moi, j'étais envoyé aussi. C'était collecteur d'impôts, méprisé. Il m'a choisi. Moi, qui étais collecteur d'impôts, méprisé et indigne. Et Jésus l'a choisi et l'a envoyé. Seuls ceux qui ont été transformés par cette grâce peuvent vraiment transmettre la bonne nouvelle de Jésus avec grâce. Seuls ceux qui ont été transformés par cette grâce peuvent, et nous pouvons utiliser sa parole d'une façon efficace pour soutenir celui qui est fatigué, pour encourager celui qui est découragé, pour exhorter avec toute douceur le frère. C'est grâce aussi que nous avons vécu. Nous aide aussi à nous rapprocher de notre frère ou de notre sœur, même quand quelqu'un a tombé dans un péché. Même un péché grave ou très grave. Et plutôt de penser comment il a pu faire cela, la grâce nous aide à le recevoir à nouveau, car nous étions aussi des pécheurs. Chacun de nous porte une histoire et un passé. Matthieu, dans l'Évangile, ajoute sa précision, les collecteurs d'un peu, mais chacun de nous pourrait ajouter un titre à notre nom. En rappelant ce que nous étions et ce que nous sommes, par la grâce de Dieu, nous avons tous un passé et nous nous sommes tous révélés contre Dieu. Nous avons vécu selon nos propres termes. Mais c'est là, dans ces conditions, que Dieu nous a secourus. Et il nous a sauvés, pas seulement pour nous offrir la paix et la joie éternelle dans sa présence. Merci Seigneur pour cela. Mais aussi pour nous permettre maintenant de proclamer et nous de conduire selon la grâce qu'on a reçue. Et pour être collaborateurs de Jésus dans ses missions de secourir les perdus, d'aller chercher les perdus. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs à la repentance. Et si tu ne peux t'associer avec ces messages aujourd'hui, c'est aujourd'hui le moment de poser la question la plus importante de ta vie. Qui est Jésus? Es-tu vraiment malade? Bien sûr que tu es malade, mais est-ce que tu le reconnais? Prends l'expérience de Lévi, prends l'expérience de toutes les personnes qui étaient assoiffées de Dieu. Dieu n'attend pas des personnes parfaites. Dieu attend des personnes parfaitement repenties pour lui donner la grâce, pour le remplir de paix dans cette année de grâce. Profite de cette année de grâce. Il y aura un jour où cette année de grâce va finir. Il y aura le jugement. Ça sera fini. Mais aujourd'hui, c'est un bon moment. C'est un bon moment. Et Jésus appelle. Et Jésus cherche. Et Jésus te cherche personnellement aussi. Il dit, suis-moi. Et à nous, nous qui nous avons reçu des grâces, que le Seigneur nous aide à donner des grâces, à pratiquer la grâce dans la famille, avec notre conjoint, notre femme, notre époux, avec nos enfants, utiliser cette grâce avec nos voisins, avec nos frères et sœurs ici à l'église. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Que Jésus nous aide. Amen.
La parole de Dieu nous dit, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et nous allons prier. Et Pedro peut prier pour la prédication. Oui, Steve va passer directement pour la Sainte Sainte. Merci.
Prions. Merci Seigneur pour Jésus qui est venu chercher et sauver les pécheurs. Merci parce que nous en faisons partie et tu nous as sauvés, tu nous as secourus, comme le cas de Lévi. Seigneur, je prie comme Jonathan l'a dit tout à l'heure, Seigneur, pour ceux qui n'ont pas encore reconnu leur besoin de toi, ceux qui n'ont pas encore reconnu, Seigneur, qu'ils sont malades, Seigneur, je prie qu'ils puissent réfléchir à cette parole, qu'ils puissent laisser de côté l'orgueil, l'autosuffisance, et venir devant toi, Seigneur, et accepter leurs besoins de toi, d'être secourus. Et pour les autres, Seigneur, parmi nos frères et sœurs qui ont déjà accepté, Seigneur, cette réalité et qui ont accepté, Seigneur, ton pardon, mais, Seigneur, qui luttons chaque jour aussi, Seigneur, de partager cette grâce avec ceux qui nous entourent, avec la famille, avec nos collègues, avec nos proches. Je prie que tu nous aides, que nous puissions, Seigneur, aussi être des témoins et des messagers de ta grâce, Seigneur. Que cette parole que nous avons écoutée, qui est vivante, qui est efficace, transforme nos cœurs et que ton Saint-Esprit, Seigneur, continue à agir, Seigneur, dans nous, Seigneur. Je prie en nom de Jésus. Amen.